Contre la réforme des retraites. Ben, heureux que vous en parliez, c'est pas trop tôt. Mais non, non, mais comme il y avait la guerre est en France, contre Hollande qui sert la soupe au patron. Oui, en tout cas, la mobilisation. Quoi, la mobilisation? Tu vas encore dire qu'on n'était pas assez nombreux, c'est ça? Mais non, pas du tout. Non. Mais je te connais. Tu vas nous resservir le couplet comme quoi faut qu'on bosse tous jusqu'à 70 ans parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Moi, de l'argent, je t'en trouve. Dans tous les paradis fiscaux, il y a assez de fric pour qu'on s'arrête tous de bosser à 40 ans. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut, c'est taxer le capital, les flux financiers, et arrêter de faire chier les honnêtes travailleurs qui se crèvent pour engraisser ces enfoirés de patrons. C'est pas faux. Mais bien sûr que c'est pas faux, abruti. Mais enfin, arrêtez de vous énerver, je suis d'accord avec vous. Encore heureux que tu sois d'accord. Toi, tu t'en fous de bosser jusqu'à 70 ans, tu les as déjà. Bon, enfin, c'est pas la question. Enfoiré, va. Au lieu de laisser ta place à un jeune, tu t'accroches comme une moule à ton JT pour continuer à payer tes vacances de bourgeois à l'île Maurice, là.
Mais puisque je vous dis que je suis d'accord avec vous...
Ouais, ben moi, je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu peux travailler jusqu'à 80 ans, vu que t'as un boulot de feignasse à la télé. Le truc le plus dur que t'as à faire, c'est de lécher le cul de ton patron pour obtenir une augmentation ou des stock-options. Tu me dégoûtes.
Mais je suis d'accord avec vous.
Non mais oh, tu te calmes, hein. Sinon, moi aussi, je peux m'énerver. Tu hausses encore le ton et je t'empale sur ton codévi, là. Hein. Je les connais, les gens comme toi, qui ravagent dans les journaux tous les soirs, qui n'y a pas d'autre solution que cotiser 45 ans jusqu'à 70 piges pour boucher le déficit.
Mais je dis pas ça. Je pense aussi que...
Non, pense pas. Tu vas te cramer un euro, là. Non, les gens comme toi, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Ils n'ont qu'à répéter bêtement le discours de ces enfoirés du MEDEF. Voilà, je sais plus quoi dire. Eh ben, ferme ta gueule et laisse parler les gens qui ont des vrais trucs à dire.
Ah, ça fait du bien d'échanger calmement avec quelqu'un avec qui on partage la même analyse.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron déclarait « Nous sommes en guerre. Contre quel pays? Aucun. Contre quel ennemi? Aucun. Sinon un virus tellement petit et tellement invisible qu'on n'a jamais pu l'éradiquer. Et pourtant, on en a trouvé des responsables. Jamais coupables, mais qui ont été privés de leurs droits comme celui de circuler, de travailler, de s'éduquer et de s'aimer. Contrairement aux boulangeries, aux supermarchés ou aux buralistes, les lieux de culture ont été très longtemps stigmatisés. Accusés de tous les maux de la terre car ils étaient censés regrouper du monde, contrairement aux supermarchés, aux buralistes ou aux boulangeries. Les commerces rouvraient les uns après les autres, même les librairies, mais pas les théâtres, les médiathèques ou les salles de concert, même avant 18h. Accueillir du public était-il un crime? Artiste est un métier comme boulanger, caissière ou buraliste. Certes, les aides ont été les bienvenues, mais est-ce que c'est de l'argent ou du travail qu'ils réclamaient? La liberté d'exercer une profession légale a été bafouée sous l'autel de la santé. La guerre permet-elle tout et finalement n'importe quoi? La culture non indispensable? 3 ans après, la réponse est toujours non. Au terminus des prétentieux, 1052e traité de paix ce soir, se demande quand on enlèvera à Macron les pleins pouvoirs. La retraite à 64 ans ou Le Pen, les Français ont choisi. Sous les 90.0 de Radio B, tout ça sent vraiment le moisi. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à, on l'espère, 18h15, mais je pense que c'est pas gagné, pour une émission vraiment pas comme les autres. Lorsque la littérature rencontre la musique et le football, le mélange est plutôt étonnant, voire détonnant. C'est plutôt rare pour être souligné. La littérature et la musique se croisent parfois, la littérature et le football très souvent, même si le résultat n'est pas à la hauteur des deux. Et que dire de la musique et du football, où le ridicule et le mauvais goût côtoient rarement le grandiose et l'excellence, même si quelques exceptions, comme par exemple la chanson de Miossec, évoluée en 3e division, de Barton, France-Allemagne 82, ou des blaireaux, un petit ballon, nous font dire que le football mérite mieux que tout ce que l'on dit sur lui. Ce soir, c'est l'histoire d'une rencontre, celle d'un écrivain et d'un éditeur. Un premier roman où il est question d'un sorcier blanc dans un continent, l'Afrique, où la pauvreté et la guerre poussent des hommes à croire en la magie d'un personnage sans scrupules qui pense plus à son porte-monnaie qu'à l'espoir qu'il est censé apporter à ses protégés. Le fil rouge, je dirais plutôt le fil jaune, le football. Une couleur que les éditions du Penseur n'ont pas hésité à mettre en avant à travers la couverture du livre Le Sorcier Blanc, sorti le 12 janvier 2023. Et la musique, me direz-vous ? Eh bien, c'est celle d'un guitariste qui accompagne sur scène les mots de l'écrivain, clamant tel un slameur le monde qu'il a décrit et écrit dans son roman. Ce soir, les trois mondes sont réunis pour notre plus grand plaisir, puisque nous avons la joie et le privilège d'accueillir dans les studios de Radio B Mathieu Vivion, romancier, Francesco Beucci, guitariste, et Jérémy M, éditeur. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Eh bien, alors, première radio, toi tu connais, bien près du micro. Mais ça,
bien près du micro.
Bien près du micro.
Moi j'ai une peur. Je commence par une peur, Michel, pour commencer. Je me suis dit, mais si à la fin de cette émission, tout le monde détermine ensemble qu'on est des prétentieux, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, rien, tu reviens la semaine prochaine.
Je reviens la semaine prochaine.
Voilà.
Et j'essaye de diminuer ce statut.
Ah non, au contraire.
Je m'enterre.
Tu t'élèves.
Je m'élève. D'accord.
Non. Et puis c'est comme les cons ça ose tout, à nous aussi. Voilà, tu vois. On est sur le con de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui vous réunit tous les trois, hein, tout particulièrement les livres, la musique ou le football ?
Un peu des trois, Michel. Je pense que cette histoire, elle part d'un amour à la base qui est celui du football. Moi, le football, c'est un souvenir. C'est le souvenir du Parc des Princes quand j'étais petit, où mon papa m'emmenait là-bas. L'un des rares souvenirs que j'ai avec mon père, et je me souviens de rentrer dans ce stade mythique. De dévaler un petit peu les escaliers et de voir ce terrain, en fait, et de voir la grandeur des choses. Moi qui étais tout petit, je me rends compte peut-être pour la première fois de la grandeur des choses. Et ça, c'est un moment marquant. C'est un moment marquant parce qu'il y a tout. Il y a tout dans un stade. Il y a la ferveur, il y a le militantisme, il y a la joie du sport, la joie de la communion entre les joueurs et leur public, qui, je crois, avec les différentes expectatives gouvernementales, tendent à se raréfier. Le football, c'est un jeu. Le football, c'est de la poésie. Et c'est, je crois, ce que j'ai essayé de raconter dans cette histoire.
Donc, quand je dis qu'est-ce qui vous réunit, on se tutoie, c'est pour ça. Qu'est-ce qui vous réunit tous les trois, les livres, la musique ou le football ? Jérémy, t'es sûr que c'est le football ?
Alors, pour moi, non.
Ben non, c'est ça. Oui, oui.
Les choses sont dites.
Donc, ça vous réunit. Oui, c'était pas le football.
Disons que c'est l'histoire. Avant tout, c'est l'histoire de ces jeunes Burkinabés qu'a écrit Mathieu. Et il va avoir quelque chose peut-être de surplombant l'histoire, mais ça va être la voix et la parole, en fait, de l'auteur. Sa tentative à lui, quand j'ai reçu son manuscrit, ça a été son ambition mêlée d'incertitude à être à la hauteur de l'histoire qu'il était en train de raconter. Et il y avait, au travers de cette tentative-là, quelque chose qui m'a profondément touché. Et j'ai voulu travailler avec Mathieu. On a travaillé énormément son texte. Et j'ai voulu porter sa voix et sa parole, qui essayait de dénoncer quelque chose. Hein, c'est une littérature qui est engagée. Mais aussi de nous faire entendre et faire voir les espoirs de ces jeunes, des personnages principaux de son roman. Et puis après, ça a été la rencontre de la musique. Parce que quand je parle de voix, on pourrait aussi parler de chant.
Exactement.
Parce que le texte est écrit pour être déclamé, pour être scandé. Et qu'il y avait déjà un rythme dans le texte en lui-même, dans sa forme purement graphique sur la page blanche. Il y a un rythme, il y a un son, il y a une voix, il y a
quelque chose qu'on a travaillé ensemble à la réécriture, où on a vraiment cherché, en fait, à rendre cette voix audible. Que ce soit en performance, mais aussi à voix haute. Il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre et qui disent, voilà, en déclamant le texte, en le mettant en voix, il y a une autre poésie qui s'installe. Et ça a été intéressant.
Et de manière évidente, arrive la musique. arrive du coup l'accompagnement musical, mais qui répond et qui communique avec finalement la parole de Mathieu. Et Mathieu et Francesco se connaissaient du coup avant même que je reçoive le manuscrit.
Ouais, ouais.
Et là maintenant, c'est à vous peut-être de dire ce qui vous réunit.
On en parlera après. Oh là là, c'est que le début là.
C'est que le début. On est parti nous. Hein, nous.
Bah, qu'est-ce qui nous réunit ?
Qu'est-ce qui nous réunit ?
Oui, parce que généralement la question, généralement tu réponds en deux phrases.
Ah,
voilà, parce qu'il y a plein de choses après.
C'est
et donc,
pas le style de la maison.
Non. Et donc, Francesco, toi, c'est les livres, c'est la musique ou c'est le football qui vous a réunis tous les trois finalement?
Bah, je dis que c'est les livres parce que c'est l'histoire. Quand on dit Jérémy, que c'est la, on a dit non, on a raconté une histoire très forte. Mm-hmm. Et la musique, dans mon côté, dans mon vision, il est exactement ça. C'est la possibilité d'utiliser un langage. Pas dans mon français, qui n'est pas génial, désolé. Non, méthodologie de parler pour tout le monde. Donc, il n'est pas seulement les Français ou l'anglais ou l'allemand, l'italienne, mais tout le monde peut entendre de la musique, peut entrer dans l'atmosphère des personnages comme de l'histoire. Donc, oui, je peux dire que la musique, il est une chose en plus. Un truc en plus pour raconter l'histoire, pour aider à comprendre l'histoire.
Donc ça ne m'arrange pas, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais ce n'est pas grave. Allez, bien, vous serez avec nous jusqu'à 18h15. C'est bien parti pour finir un petit peu en retard. Et vous nous raconterez l'histoire du roman de Mathieu, Le Sorcier Blanc, sorti le 12 janvier 2023 aux éditions Le Penseur, fondé par Jérémy, et que Francesco accompagnera avec sa guitare d'une lecture musicale qui promet. Moi, j'ai vu. Sans oublier celle que vous proposerez à la librairie La Folle Aventure, 3 Grandes Rues à Trévoux, le vendredi 17 mars 2023, à partir de 20h. Et votre présence, celle de Mathieu, la présence de Mathieu, bah, peut-être de Francesco aussi, je ne sais pas, au Salon du Livre à Villefranche-sur-Saône.
Oui, c'est ça, samedi.
Hein, ils seront là tous les deux.
On y sera.
Tous les trois. Donc le samedi 18 mars 2023. À vos côtés, bah, je vous présente mon co-animateur. Alors, ça, il va vous faire plaisir à tous les trois. Ses origines, tout d'abord. Alors, comme son nom de famille le trahit, il est espagnol, Rodriguez. Il est espagnol. Mmh. Et lui aussi, il est leader de son groupe. Ah oui, la SCAF de là. Eh oui, c'est le président. Donc, oui, c'est le leader. Donc, pas de l'équipe de football. Hein,
non, ça c'est toi.
C'est moi. Mais d'un autre sport qui se joue avec une boule ronde et se pratique avec de bien drôles de chaussures.
Ah,
voyez
oui. Ah, le bowling.
Voilà.
Oh, extraordinaire.
Voilà. Donc, comme au football finalement, hein, lui, le fan de ballon rond est d'un club qui a usé des bienfaits du sorcier blanc pour repérer les futures pépites de l'ossature de son club de cœur, le Real de Madrid. Lui aussi, bah oui, ils ont aussi embauché des... Et le sorcier blanc a dû envoyer des joueurs au Real Madrid. Hein.
Sûrement.
Hein, sûrement, bon, c'est même sûr. Alors côté musique, voilà. Et là, lui, c'est un grand fan et un grand spécialiste du rock dit indé.
C'est une excellente nouvelle.
Donc The Killers.
Spécialiste, c'est un bien grand mot.
Ouais.
Amateur, grand fan.
The Killers, Arcade Fire et autres Arctic Monkeys n'ont aucun secret pour lui. Hein. Mm-hmm. Ouais.
Arctic Monkeys moins, mais ouais. Bon, il y a d'autres groupes aussi.
Voilà. Alors, et son vécu littéraire se passe de commentaires. Attention.
Oh là là, qu'est-ce qu'il va me sortir ?
Ce qui noir prend souffle, c'est lui. Le dépôt des rêves, c'est encore lui. Alors, si vous connaissez, parce que moi je connaissais pas avant d'avoir cherché. Poésie contemporaine et tension de l'identification de 1985 à nos jours, c'est toujours lui. C'est un Rodriguez.
C'est un Rodriguez qui a écrit ça.
C'est. Une ombre à son tableau de chasse, cependant. Les larmes de ma vigne.
Pourquoi ?
Que voulez-vous ? Il n'aime pas les chats. Aurait-il confondu le vin du Bugey avec le Beaujolais ? Visiblement il aurait abusé du premier. Il l'a trouvé, à ton avis, Jérémy, il l'a trouvé comment, le vin ?
Je suis sûr qu'il est excellent.
Non, il l'a trouvé amer. Il l'a trouvé amer. Eh oui, alors ça dit quelque chose, l'âme mère, il l'a trouvé amère, bien
tout
sûr.
À fait.
Alors voilà, il dit vrai et brise enfin le tabou, celui de la chambre
152.
Ben oui, Tonio, bonsoir. Ça va.
Bonsoir Michel, salut à tous les trois.
Bonsoir,
salut tout le monde. Ben, t'as encore essayé de faire très fort, c'était un peu plus dur hein, cette semaine.
Un peu
il
n'y
avait
dur,
pas
ouais.
De titre de chanson.
Non,
donc,
non,
t'as pas pu faire une petite histoire.
Si, on dévie sur les noms, des livres.
Oui, voilà.
Hein, bon, des éditions du Penseur, par exemple. Hein.
Par exemple.
Voilà.
Donc, t'as un petit peu contourné la difficulté. Bravo Michel.
Allez,
vamos.
Et en italien, on dit comment
Andiamo.
Andiamo. Ras-le-bol de Andiamo. Andiamo, c'est pas parce qu'il joue pas la Coupe du Monde pendant deux années de suite. Alors,
ça, c'est...
on y va. Post-punk, revival, rock alternatif, rock indépendant, new wave, heartland rock, notre ami Wikipédia n'avait que l'embarras du choix, ou le choix de l'embarras, vu les termes employés pour définir le style des Américains de Killers. Il faut dire que les influences de la bande à Brandon Flowers partent dans tous les sens et viennent de loin, Depeche Mode, Magnum, le groupe de rock progressif, hein, pas le moustachu, Tonio. bah oui, mais Oasis, David Bowie, Duran Duran. De toute façon, qui connaît le groupe Magnum ici, à part moi Ok, voilà.
Alors, Duran Duran. C'est vrai, tu as raison, Michel.
Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui les connais et qui les ai vus. Alors, Duran Duran, The Cars, The Waterboys, New Order ou encore The Smiths. Des groupes essentiellement britanniques. Hein, pour un combo américain, je croyais que la patrie du rock était les États-Unis. Avec un tel écart artistique, du rock prog de Magnum à la new wave guimauve de Duran Duran, on se dit que le mélange serait explosif. Et il le fut. Hein, quelle tuerie, normal pour The Killers.
Que... Michel, bien, très bon. Bravo.
Ouais, que les morceaux du premier album Hot Fuzz, sorti en 2004, dont les tubesques. Tu peux te rappeler
Je peux me rappeler, il y avait Mr. Brightside.
Ouais, et l'autre, c'est...
Il y avait Somebody Told Me.
Voilà, c'est des gros tubes, a priori.
Ouais. A priori.
Ouais. Ouais.
Surtout le dernier que tu viens de citer.
Ouais, ouais, donc, ouais, ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça.
Voilà, les premiers... Je me rappelle être gamin et regarder les clips, tu sais, sur M6, et c'était Somebody Told Me avec ce batteur qui était un peu bourru, là. C'était très chouette.
Voilà, donc deux tubes qui cartonnèrent aux States et aux États-Unis, même en France, pays ô combien conservateur en matière d'ouverture musicale. Et oui, pour beaucoup, le rock en France était Johnny ou Téléphone. Hein. L'album ne laisse personne indifférent, celui des Killers, hein, je vous rassure. Alors, les plus grands se les arrachent, Bono invitant même le chanteur sur scène à reprendre un morceau de U2. Un succès mondial confirmé par la sortie 2 ans plus tard de leur deuxième opus.
Deuxième opus, Samstown.
Samstown.
Elle est sortie de nulle part, celle-là.
Voilà.
Bon, la suite ne fut pas forcément à la hauteur des débuts des Killers. Allez, pour me dire mon ami Tonio, à l'image de Coldplay, Travis ou Muse, leur musique décevra quelque peu les fans de la première heure, n'est-ce pas, Tonio?
Oui, je suis d'accord.
Ouais.
Oui.
Le morceau culte de ce soir, All These Things That I've Done, n'a pas cartonné comme les deux autres tubes cités précédemment, mais il a marqué l'un de nos invités d'un soir, hein, Mathieu, lorsque je t'ai proposé de choisir ton morceau culte, hein, pourquoi avoir choisi précisément ce morceau de The Killers.
Parce que je crois que c'est le morceau, en fait, comment dire, qui traverse les âges. C'est un morceau que je réécoute encore souvent avec ma copine qui trouve en fait une résonance encore très très intacte en fait, tu vois, c'est mon enfance, voilà. Les Killers, c'est l'un des premiers albums que j'ai acheté quand j'étais gamin, avec Franz Ferdinand, Placebo, les Arctic Monkeys, etc. Mm-hmm. Et je crois que c'est encore cette chanson-là. Si je dois en garder une, je pense que c'est celle qui me donne toujours beaucoup d'émotions quand je la réécoute.
T'as hésité entre un morceau des Arctic Monkeys et un morceau des Killers. Ouais. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté du combo américain ?
Ouais, pourquoi les Américains, c'est vrai.
Ils sont Américains, mais ils auraient pu être Belges. Hein.
Ils auraient pu être Belges. Très bon, ouais, ouais. Très bon réservoir de rock aussi, la Belgique. Parfait. Très très bon réservoir. Ouais. Ouais. Pourquoi ? Non, pourquoi ? C'est une bonne question. Ouais. Je crois que... Il y a toujours une attirance pour les Killers que je ne m'explique pas. Il y a encore une fois beaucoup de poésie là-dedans, et puis ça trouve une résonance, voilà. Ça trouve une résonance, et j'aime beaucoup les Killers, voilà.
Voilà. Alors le rock anglo-saxon du début des années 2000, c'est celui de The Killers, d'Arctic Monkeys, mais aussi celui de Coldplay, des White Stripes, des Kings of Leon, des Black Keys, d'Arcade Fire, des Strokes ou de Muse. Ce sont ces groupes, cette période du rock qui a façonné ton éducation musicale ?
Ouais, ça, c'est vrai que la vague américaine des années 2000...
Anglaise aussi
Oui, non, mais j'allais y venir.
Ah pardon, d'accord, ouais.
Non, la vague américaine des années 2000, c'est une vague qui est extrêmement créative. Beaucoup d'enthousiasme dans ce rock-là. Moi, je pense à un groupe, les Yeah Yeah Yeahs, par exemple, avec Careno, leur chanteuse, qui a apporté en fait une dimension presque très sexuelle aussi à cette vague-là. C'est une chanteuse qui poussait beaucoup de cris, beaucoup de voilà, qui était très expressive. Et je crois que ça participe en fait à un éveil. Ça participe à une musicalité, c'est un rock qui a une force vive, voilà. Et je crois que ça, quand on est adolescent, un peu solitaire dans sa chambre, je pense qu'il y a une impulsion de rébellion qui vient de ça. Et puis les Anglais l'ont fait très bien aussi, et ça c'est depuis très longtemps. Ouais.
Alors Francesco, Jérémy, le rock indé, celui de Mathieu, ça vous parle forcément ? Vous êtes branché rock, vous ? Ah ben, Jérémy.
Tu m'obliges à parler avant toi.
Exactement.
Oui, oui.
Alors malheureusement, hein, Michel, je vais te décevoir, mais j'ai pas forcément une oreille musicale. Ça me parle, mais je retiens ni les noms des chansons, ni le nom des albums, ni le nom des artistes.
T'es comme branché rock ?
Je suis quand même branché sur de la bonne musique, pas forcément rock.
D'accord. Voilà.
Mais quand il y a quelque chose qui me parle, oui, j'écoute et je tends l'oreille.
Alors qu'est-ce qui te parlait alors ou qui te parlait il y a 20 ans ? Toi, tu te rappelles plus.
Oula, bon sang, ouais. Quand j'étais jeune, un petit chanteur qui s'appelait Damien Saez.
Ouais.
Celui-là a bercé ma vague mélancolique.
Ah oui, d'accord.
et je crois que Saint-Pétersbourg est encore un de mes titres préférés. J'écoute plus forcément parce qu'aujourd'hui je vais bien.
Mais lui aussi, j'espère.
Et Damien Saez, sa poésie, son chant, et puis aussi ce qu'il dégageait à cette époque-là de ma vie, ouais, ça me parlait.
Ouais. Francesco, même si à l'époque tu étais peut-être en Italie, non ?
Ouais, Italie.
Le rock en Italie, je sais pas.
Le rock en Italie, ouais, non, nous avons quelque chose, mais mon formation musicale, la musique, elle me parle le plus dans le cœur. Il est une musique qui vient plus de les blues, de l'América, mais l'América, voir si je peux dire ça, ouais. Plus Robert Johnson, John Lee Hooker, B.B. King, ça. Et après, c'est évolué pour arriver en France avec Django Reinhardt, que je le connaissais.
Django.
Le bon Django, papa Django, que je le connaissais de plus adulte, plus grande. Et j'ai trouvé une évolution de ça.
D'accord.
Et ouais, bien sûr, on doit rester dans l'Angleterre, je peux dire, les Clash et... Sex Pistols, ça, c'est plus à côté de moi, de mon jeunesse.
C'est vieux, ça, c'est vieux. C'est
ça a plus
vieux.
De 20 ans.
C'est du vieux. Il y a 20 ans, les White Stripes, les Killers, tout ça, ça te... Non, pas spécialement.
Oui, mais si je dois choisir, qu'est-ce que je vais écouter dans mon casque...
Tu peux choisir.
Oh, merci.
Tu as le droit.
Si j'ai choisi, je préfère écouter, bon, je sais pas, là, Sex Pistols, Clash.
Voilà. Des trucs de vieux.
Des classiques.
Et là. Mais des bons classiques. Alors, quels sont les autres genres, quels autres artistes que vous appréciez écouter? Pour Mathieu, je pense au rap ou au slam. Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Oui, du rap, du slam. Je suis pas expert en la matière, mais je trouve qu'il se fait des choses dans le rap français qui dépasse beaucoup de frontières. Je pense à Oxmo Puccino par exemple, voilà, mm-hmm. des artistes en fait qui arrivent en fait à manier les mots, qui ont une vraie poésie, un sens littéraire qui moi me parle beaucoup. C'est ça pour moi la force du rap, c'est une musique qui transfigure les mots et il y a beaucoup d'artistes qui le font très bien aujourd'hui et je suis très reconnaissant de ça.
Bien. Allez, il est l'heure de partir dans un monde où l'argent est plus important que les gens, surtout depuis ce soir, où le ballon rond n'est pas seulement un jeu. Hein, les mots de Mathieu Vivion dépasseront-ils nos pensées? Les notes de Francesco Beucci couvriront-elles tous les mots MOX de la Terre? Ben, ça tombe bien, ils se sont arrêtés au terminus, celui des prétentieux. Eh bien, les 17h passées de 44 minutes sur les 90.0 de Wallor Tonio.
Voilà, vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h, ou la rediffusion du samedi 14h.
Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Vivion, Francesco Beucci. On dit ça, hein?
Oui, exactement. Bon,
très bien. Bon, et Jérémy M. Hein, Jérémy M.
Exactement. Voilà.
Non, pas l'artiste, mais l'éditeur. E-Y-M-E, hein, comme ça, moi, c'est clair pour moi. Alors, ils nous parleront du roman Le Sorcier Blanc, sorti le 12 janvier 2023 aux éditions Le Penseur. Mathieu et Francesco nous gratifieront d'une lecture musicale dont ils ont le secret. Et c'est une première, parce que c'est une première en radio, ça c'est sûr.
C'est une première en radio, oui, tout à fait.
Exactement. Voilà.
Et Jérémy nous parlera de sa passion pour les livres qui l'a poussé à créer une maison d'édition. On fera tout ça en même temps, on va essayer en tout cas. Alors je vous rassure, ce soir, les notes, celles de la guitare de Francesco, auront autant d'importance que les mots de Mathieu. Commençons par l'auteur du Sorcier Blanc, Mathieu. D'où vient ton amour pour les mots, mais également pour les notes, l'écriture et la musique, enfin au moins d'abord l'écriture, c'est une très longue histoire.
C'est une longue histoire qui a commencé sur les bancs de l'école de journalisme.
Ah, mais c'est tout récent alors.
Non, attends, j'ai 32 ans. Hein.
Oh là là. on se voit que des vieux, nous.
Non, ça a commencé par là. Avec l'apprentissage d'une écriture qui était très formatée, si tu veux. Le journalisme, c'est un mot, une info. Et je crois que c'est quelque chose à déconstruire. Je pense qu'on peut dire plein de choses en une phrase. Je pense qu'on peut dire plein de... Il y a plein de choses qui se disent, il y a plein d'émotions qui se disent avec une virgule. Et je crois que c'est important aujourd'hui de d'écrire de cette manière-là. Je suis revenu à l'écriture parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup abandonné, que j'ai laissé de côté parce que le journalisme n'était pas fait pour moi et je crois que il y avait une envie d'écrire qui était intense. J'ai expérimenté un événement dans ma vie qui s'appelle une bouffée délirante où voilà, c'est un accès psychotique voilà qui m'a conduit en hôpital psychiatrique et je crois que ce genre d'événement ramène à une forme de solitude extrêmement précaire. Et quoi de mieux que l'écriture quand on est un peu refermé socialement, humainement aussi, quoi de mieux que l'écriture pour exprimer en fait ces choses-là. Je crois que c'est la question qui s'est posée et je crois que ça a été une vraie rédemption, quelque chose de salvateur. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'écriture, voilà, c'est une nécessité, c'est un besoin. Je suis pas bien quand j'écris pas. Voilà, je suis pas vivant quand j'écris pas. Et j'ai besoin d'extérioriser à ma façon ce que je ressens au quotidien. Voilà.
Tu avais des artistes, des écrivains de chevet.
Je lis beaucoup de littérature algérienne en ce moment. Voilà, Boualem Sansal. Nina Meurice. Voilà, c'est des artistes qui me touchent beaucoup parce que je cherche, en fait, je cherche à découvrir quel est ce pays-là, qu'est-ce que ça veut dire être arabe aujourd'hui.
T'as des origines
J'ai des origines algériennes, ouais, kabyles. Et c'est important pour moi, voilà. C'est important aujourd'hui de retrouver cette identité-là, et je pense que quand on ne connaît rien d'un pays, quand on ne connaît rien de ses racines, il faut aller voir ce que nos ancêtres ont écrit de ce pays-là, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont vu. Je trouve ça extrêmement salvateur aussi, voilà, d'avoir une autre vision que la mienne. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, l'idée c'est d'être un bon père pour soi-même. Et quand on est un bon père pour soi-même, c'est d'abord apprendre la culture, l'histoire d'un pays qu'on ne connaît pas et qui nous tend les bras.
Est-ce que tu prétends mieux connaître la France ?
Pas nécessairement. Pas nécessairement. J'ai une relation, comment dire, avec la France qui est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que Si on prend par exemple l'histoire de la guerre d'Algérie, j'apprends petit à petit que la France tient des responsabilités, tient énormément de responsabilités, et que ces responsabilités ne sont pas comment dire
encore assumées.
Assumées, hein. Tout à fait,
ah bah
assumées.
Oui. Ouais, et les responsables ne sont pas tous morts encore, c'est peut-être pour ça.
Non, c'est ça. Et puis voilà, par exemple, si tu veux, voilà, moi quand j'apprends que les archives de la guerre d'Algérie sont toujours détenues par l'armée française, et c'est quelque chose qui me troue le cœur, quoi, parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas dites. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de la vérité aussi, tout autant pour les Algériens, mais pour les gens qui ont connu cette guerre aussi, les Français, les Harkis. Moi, mon grand-père était descendant, je suis descendant d'Harkis. Y a toute une problématique autour de ça qui n'est pas divulguée. Il y a énormément de non-dits et de faux-semblants. Et je crois et j'espère que ce genre de problématique se résolvera, un jour. Emmanuel Macron est parti en Algérie il n'y a pas très longtemps, il a fait quelques promesses. Tenons-les.
Bah, si c'est comme celle des retraites, on peut lui faire confiance. Hein, voilà. Après, voilà. C'est pas le peuple qui décide. Voilà. Qu'est-ce qui fait que donc ton amour pour les mots, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un roman, et un roman particulier puisque c'est une histoire un peu particulière que celle des sorciers blancs, mais enfin il y a plein de choses dans ce livre-là. C'est pas que l'entraîneur de football blanc qui vient en Afrique. C'est d'où est venue cette genèse d'écrire ce livre ?
Je te parlais tout à l'heure de l'amour du football. Je te parlais de ça avec beaucoup de... mes yeux pétillaient quand je te dis ça.
Beaucoup d'enfance.
Ouais, beaucoup d'enfance. Je pense que d'ailleurs, écrire l'histoire de deux enfants, ça vient pas de nulle part. Mais je crois que quand on a l'amour du football, on est en position privilégiée aussi de parler de ses dérives. On se doit de raconter ça, parce qu'on se doit d'avoir une vision qui est réaliste du monde dans lequel on est. Et je crois que le trafic d'enfants dans le football est une réalité dont on parle peu. Qui,
on
ne
parle pas, tu veux dire.
On n'en parle pas. Je dis peu parce que je sais que cette histoire est connue. Mm-hmm. Elle est connue par la FIFA. Des clubs ont été condamnés pour ce genre de choses, pour les trafics de jeunes joueurs. Mais effectivement, tu as raison quand tu dis que cette histoire n'est pas médiatisée.
On l'oublie vite,
l'histoire. Ouais, on l'oublie vite parce que c'est une machine. C'est, voilà. Le football est une machine, le sport est une machine.
Mais le football représente bien le monde, finalement. L'histoire du monde, c'est l'histoire du football.
Tout à fait.
Ben, c'est la même chose.
Mais on retrouve dans le divertissement, c'est les jeux de Rome, quoi, si tu veux. Ouais. C'est les jeux de Rome. On retrouve dans le système du sport énormément de dérives, de notre société-là. Et je crois qu'il faut les combattre. Voilà, il faut les combattre. Il faut raconter le rêve d'une façon différente. Et je crois, voilà, moi, de mon expérience, je vois le rêve. J'essaye de raconter le rêve avec ce soupçon de magie. Parce que quand on parle de la magie, on met à distance. Et je pense que c'est une façon de raconter l'histoire qui est aussi salvatrice. C'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui, salvateur. Mais raconter cette histoire-là avec tout son réalisme. J'ai pas essayé de faire une enquête, si tu veux. C'est pas une enquête. C'est au travers du prisme de ces deux gamins-là, énormément de poésie. Raconter les rêves déchus, c'est important. Pourquoi partir? Pourquoi rester au-delà de la migration? Qu'est-ce qui fait pour ces gamins-là? Quelle est la machination du rêve? Quel est le mécanisme du rêve? C'est ce que je voulais raconter dans cette histoire-là aussi.
Est-ce que tu pourrais nous la raconter avec la guitare de Francesco?
Avec plaisir.
Le temps que tu t'installes, pour un premier passage que tu vas nous lire et nous clamer. Et puis Francesco avec sa superbe guitare que ne renierait pas celle de... Ah ouais, Django Reinhardt, paraît-il. Hein, paraît que la guitare est très jazz manouche. Voilà. Donc... Francesco la guitare, Mathieu aux voix, avec un extrait. Tu nommes un peu tes extraits quand même.
Non, je nomme pas les extraits, non, pas nécessairement.
Oh, pas nécessairement.
On part en chapitre, donc
en chapitre.
On parle en chapitre, voilà. Avec Francesco.
Et celui-là, franchement, il vaut le coup pour l'avoir écouté, enfin lu et écouté. On en parlera après. Toute une histoire. Et ça, en plus, à quoi Antonio, hein. Il y a un espagnol dedans.
Il y a un espagnol dedans. On joue. Je fais gardien. Les autres se mirent à rire, les corps relâchant toute la tension qu'ils avaient subitement accumulée. L'Espagnol riait aussi. Personne n'est gardien ici, petit, y a pas de gardien. Tu t'es cru à la Coupe du Monde ou quoi? Ici, tu marques ou tu ne sers à rien. Peut-être, c'est vrai, l'Espagnol était quelque peu arrogant. Je me souviens avoir vu l'enfant s'avancer vers son adversaire, fort d'une confiance nouvelle, comme s'il lui serait agréable d'être pour une fois battu par la grâce et le talent d'un autre, d'être cette fois si joliment frappé. Alors, pénalty. Comme à la Coupe du Monde. Je veux que tu choisisses un côté et que tu frappes de toutes tes forces. Si je l'arrête, je joue. Et si tu marques, je m'en vais. Et je te regarderai tirer dans le but vide, si c'est ce que tu appelles football. De toutes les grandes occasions où il fit valoir sa trempe aux yeux de tous, le Burkinabé considérait celle-ci comme une chance réelle. Une fortune inespérée d'être finalement validée. L'Espagnol le regarda et fit tourner le ballon qu'il tenait depuis un long moment entre les mains. Qui t'a fait ça? Les cicatrices là, partout, sur ton visage. Qui t'a fait ça? Les mauvais joueurs.
Voilà, ça pourrait s'appeler penalty.
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 Penalty, c'est très bien.
Ah, tu restes debout ?
Non, tu veux que je me rassoie ?
Ben oui, allons-y.
Allez, rasseyons-nous.
Oui, oui, rasseyons-nous. Voilà, un extrait du premier roman de Mathieu Vivion, Le Sorcier Blanc, sorti le 12 janvier 2023, aux éditions Le Penseur. Donc, ce fameux penalty, c'est rigolo parce que Tonio aurait pu me faire la remarque, hein, parce que. Il a pu me faire la remarque par rapport au poste si particulier de gardien de but que j'ai osé prendre de temps en temps. Hein, franchement, il aurait pu me dire, hein, personne n'est gardien ici petit. On est entre spécialistes. Il n'y a pas de gardien, tu t'es cru à la Coupe du Monde ou quoi ? Ici, tu marques où tu ne seras. Où tu ne sers à rien.
Ah, tu ne seras à rien, c'est intéressant.
Il est bon ton lapsus.
Voilà, où tu ne sers à rien. Où tu ne sers à rien. C'est la différence entre le football de compétition et le football loisir, non ? J'ai l'impression des fois. Hein. si on ne marque pas, on est rien.
Ouais, c'est vrai que dans le football, le poste de gardien de but est extrêmement ingrat. Le gardien de but, c'est celui qui a presque énormément de pression, hein, parce que au moindre faux pas, à la moindre mauvaise performance, c'est le coupable idéal.
Il aura rarement le ballon d'or, hein, le gardien de but. Hein.
Non, c'est vrai. Lev Yashin qui l'a eu en 60, je crois.
Ouais, hein, c'est pour vous dire.
Le seul.
Donc autant dire.
C'est, voilà. Ouais.
Oui. Donc, tu ne sers à rien, mais bon, ça veut dire aussi, dans ces pays-là, tu parles de sorciers blancs, tu racontes, parce que bon, il peut un petit peu raconter comment ça se passe, enfin j'imagine, tu t'es un peu documenté, puis on imagine tout de suite comment ça se passe là-bas, les gamins sont prêts à tout pour se faire remarquer, pour un jour peut-être signer en Europe, et il faut marquer, c'est pas très collectif.
C'est pas très collectif.
Pour un sport collectif.
Mais comment dire, le collectif, t'as raison de noter ce mot-là, le collectif, le rêve est collectif.
Ouais.
Le rêve est collectif. Le rêve du football, qui est extrêmement puissant, il passe par un collectif parce qu'il est partagé à la fois par ses joueurs, mais aussi par leur famille et aussi par les villages dans lesquels ils vivent. Et Ce rêve-là ruisselle et il est extrêmement, voilà, il est porteur de beaucoup de fantasmes, mais il est aussi porteur d'énormément de déceptions et viennent se greffer à ça, voilà, de ces gamins qui jouent dans les rues, des vautours, voilà, des vautours qui les remarquent, qui les repèrent.
Bon, en plus, dans un pays en guerre.
Dans un pays en guerre, le Burkina Faso.
C'est vraiment chacun pour soi. Parce que
mais c'est une histoire qui se passe, comment dire, là. On a choisi de l'ancrer en Afrique, mais c'est une histoire qui traverse tous les continents. C'est-à-dire que ça se passe en Amérique du Sud, ça se passe en Asie, ça se passe dans énormément d'endroits. Le trafic d'enfants n'est pas lié qu'à l'Afrique.
En France, c'est pas du trafic d'enfants, mais ça pourrait y ressembler.
Non, mais en Europe aussi, dans les pays des Balkans, voilà, il y a énormément de choses qui se passent aussi à ce niveau-là.
On pourrait extrapoler ce qu'est le sport de haut niveau, en ce qu'il brise aussi les corps, en ce qu'il
et les rêves aussi.
Exactement. Donc finalement.
Ouais, t'as raison. Ouais. Donc ça se passe à le sorcier blanc, l'histoire de ce sorcier blanc. Qui n'est ni Bruno Metsu ni Claude Leroy. On les appelait les sorciers blancs.
On les appelait les sorciers blancs, c'est vrai.
Je ne pense pas qu'ils aient tenu ce rôle-là.
Non, mais le sorcier blanc, c'est comment dire. Pour moi, c'est le résidu du colonialisme. C'est le résidu du colonialisme parce que cette appellation sorcier blanc, elle provient du blanc. Elle provient de l'homme blanc qui est supposé apporter, voilà, la magie, la dextérité, le courage à ces jeunes Africains-là.
La connaissance, il y a énormément de prétentions.
On a longtemps parlé de sauvage.
Hein.
Ouais, c'est un terme qui est terrible. C'est un terme qui est terrible et qu'on peut pas accepter aujourd'hui. Voilà. Il y avait un très bel article dans Libération qui parlait, voilà, qui disait il faut arrêter avec le sorcier blanc, il faut arrêter avec le terme du sorcier blanc. Mmh. Je crois que voilà, c'est le vestige d'une autre époque. Et je pense que voilà, le football africain se développe aussi. Et je pense que il faut le laisser se développer et que l'Europe n'a pas forcément à mettre son nez là-dedans et que ces dérives n'ont pas lieu d'être.
Ouais. Donc ça se passe au Burkina Faso, ton histoire se passe à Ouagadougou, mm-hmm. au Burkina Faso.
Tout à fait.
À l'époque où le pays est en guerre civile, j'imagine, mm-hmm. hein, plus qu'en guerre tout court.
On en parle, c'est pas le sujet
c'est
principal.
C'est pas le sujet, mais bon, on en parle parce que...
C'est un contexte,
ouais, c'est un élément de décor.
Ouais. Voilà. Donc ce sorcier blanc est donc une sorte d'équipe avec lui, a sélectionné plusieurs joueurs. Et donc ton histoire, le sorcier blanc, est d'un petit Burkina B, donc mm-hmm. Veut intégrer l'équipe parce que lui aussi il a des rêves. Et par contre, lui, il est gardien, il est gardien.
Il veut faire des choses avec ses mains, il veut faire quelque chose de ses mains, tout à fait. Voilà.
Et il y a plusieurs nationalités, il y a le Burkinabé, il y a l'espagnol. Alors, il y a l'espagnol, il y a l'anglais, ils sont tous.
Où les gamins sont nommés finalement par la couleur de leur maillot
qu'ils portent. Voilà.
Leur nationalité. Voilà.
Étrangement, voilà. c'est les plus gros pays.
Exactement.
C'est soi-disant plus gros pays de footballistique du monde.
C'est
soi-disant.
Leur rêve. Hein, c'est ce qui.
L'allemand,
c'est
l'espagnol, ouais. L'anglais, l'italien. Mm-hmm.
L'italien, bien sûr.
Et le français.
Et alors, pourquoi avoir choisi. Parce que, soi-disant que l'espagnol serait. Pourquoi avoir choisi l'espagnol, voilà.
Pourquoi l'espagnol?
Ouais, pourquoi l'espagnol? Ça aurait pu être un français.
Non. Pourquoi
ça,
l'espagnol?
C'est arrivé comme ça parce que c'est le plus prétentieux de tous. Et...
L'espagnol
est prétentieux. C'est des clichés, ça.
Non, l'espagnol, l'Espagne, l'Espagne est un football extrêmement technique et je crois que le personnage de l'espagnol.
Ouais.
Il vient se poser là, voilà. C'est un prétentieux, l'espagnol.
Voilà,
c'est un
prétentieux. L'espagnol est arrogant, menteur, tricheur.
Non, le
Burkinabé est violent et voleur. Voilà.
C'est un raccourci un peu simple. C'est le point de départ de l'histoire. Effectivement, il y a une précarité, il y a une pauvreté pour ce Burkinabé là, et il y a pour l'espagnol, comment dire, une soif, voilà, un individualisme qui ne peut que se détériorer au fur et à mesure. Et ils apprennent, en fait, tous les deux, finalement, à oublier leur passé, à oublier leur faille et à faire équipe. Et ça, je pense que tu parlais du collectif tout à l'heure. Je pense que c'est la force du livre. C'est comment ces gamins-là... se réunissent ensemble, comment ils rêvent ensemble et comment ils font équipe, comment ils deviennent frères.
Parce que c'est pas l'équipe, hein, dans le contexte de la sélection qui va partir en Europe, c'est un seul qui aura son ticket, et donc tous se battre pour avoir le ticket, tandis que du coup le personnage principal, le Burkinabé, lui rêve de faire équipe, lui qui n'a pas de famille, orphelin. Et donc c'est tout le combat finalement entre son ami attaquant qui lui veut performer encore et être vu et ne pas s'en cacher. Je fais une citation du livre. Comment ces deux amis, un est attaquant, l'autre est gardien, qui va empêcher l'autre de partir à l'accomplir
son rêve? Et c'est pour ça que le penalty est une image essentielle. Voilà, c'est
tout
ça. Qui va marquer, qui va l'arrêter?
Un pénalty peut changer le monde.
Exactement, hein, exactement. Voilà. On l'a vu à la Coupe du Monde. on l'a vu à la Coupe du Monde.
Ça change que le monde du football. Hein.
Oui,
pas le nôtre,
mais oui, mais
hein, malheureusement.
Énormément de choses aussi.
Je suis pas sûr que si Mbappé réussissait son... Enfin, non, c'est pas lui qui l'a raté d'ailleurs. Si on gagnait la Coupe du Monde aujourd'hui... la réforme des traites aurait été annulée ou pas.
Oui, mais
quoi.
Parce que là, tu vois donc, ça par rapport ça ne change pas grand à la chose, réforme c'est... des retraites. Mais...
Enfin, ou plein d'autres choses.
Ça apporte un enthousiasme, je crois. Je crois que le sport a cette faculté-là.
Mais ça
ne
change rien.
Non, ça ne change rien, c'est vrai.
Ça fait du bien.
Mais ça fait du bien, mais je crois qu'on a besoin de ça aussi. On a besoin de ça.
C'est un peu l'opium du peuple, là.
Oui, c'est le divertissement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les jeux du stade, etc. Mais je crois que voilà, aujourd'hui, le sport est énormément vecteur aussi de choses positives. En tout cas, je le crois. Et on a besoin du sport. Aujourd'hui, les politiques l'ont très bien compris aussi. Mm-hmm. On a besoin d'avoir un petit peu, voilà, de respirer aussi. Et je crois que ça passe par le sport.
Donc, ce livre a été écrit avant la rencontre avec Jérémy ou pas ?
Oui, il a été écrit avant la rencontre avec Jérémy.
Donc, une fois que tu as écrit ce livre, j'imagine que quand on écrit un livre, on a envie de le publier. Donc, soit on le publie à compte d'auteur ou on le publie sur Amazon. Gros mot, oui, désolé. et personne ne vous connaît parce que personne ne fera de la pub pour vous. Soit on a envie de l'éditer, de le faire partager, de le faire connaître. Mm-hmm. C'était ton cas.
C'était mon cas, ouais.
Forcément.
Oui.
Oui. T'aurais pu le garder pour toi.
J'aurais pu le garder pour moi, mais je vois pas l'intérêt. Je sais qu'il y a des gens, et c'est extrêmement respectable, voilà, qui des écrivains, des auteurs et des autrices qui écrivent pour eux, qui restent très protecteurs de ce qu'ils écrivent, qui ne le font pas lire, qui le gardent pour eux. Moi, j'avais envie de partager ça, et je crois que l'ambition dès le départ. Si l'écriture est une forme de renaissance, j'ai envie d'en profiter. Voilà, j'ai envie de partager ça avec le plus grand nombre et la rencontre avec Jérémy.
Donc, alors comment c'est fait ? Donc, comment tu procèdes dans ces cas-là ? Comment t'as procédé dans ces cas-là ?
Et tu bûches pendant de nombreux mois. Tu profites un peu du Covid pour te retrouver à un bureau en Écosse. Chez ta famille avec une petite lampiote et puis ton ordinateur et puis tu te mets à imaginer à imager ce que tu as envie d'écrire. Ça parle d'un contexte, ça part d'image d'abord. Chez moi, c'est l'image est très importante. J'ai des images qui me viennent en tête et qui, je crois, me parle. J'ai des images contradictoires souvent, voilà, qui cohabitent, qui se contredisent, que j'ai envie d'exprimer. Tu prends un contexte politique, parce que je trouve que le contexte politique est contradictoire aussi. Le contexte politique est nécessaire à la création d'une histoire magique. Et si tu prends un peu de distance, je pense qu'on peut trouver des histoires qui sont singulières. Et
donc, puis arrive le moment où tu dis c'est fini et tu l'envoies.
Et tu l'envoies.
Comment tu fais pour. Parce que tu fais des recherches. Parce que le penseur, quand tu tapes éditeur sur le moteur de recherche qu'on n'aime pas, le penseur n'arrive pas en premier, j'imagine.
Si, j'espère. Comment ça, j'arrive pas en premier?
Si tu tapes édition du penseur sur Google.
Non, si tu tapes édition, à mon avis, t'as. Excuse-moi. Comment on rencontre le penseur alors?
Comment on rencontre le penseur? On se renseigne. On va sur Instagram, on va sur Google, on visite les sites internet, et puis on se rend compte.
On tombe pas par hasard sur l'édition Le Penseur. Si
on tombe par hasard parce que je pense que quand on est écrivain et qu'on travaille en tout aveuglement. On tombe par hasard en premier, je veux dire, c'est pas un hasard, mais on va regarder ce qui se fait. Mm-hmm. Surtout quand on n'y connaît rien, on va regarder ce qui se fait et je pense que la rencontre se fait à ce moment-là. Et quand on se rend compte que, tu sais, il y a toujours un petit chapeau dans les sur les sites internet. Et le petit chapeau voilà, parle de la maison d'édition, parle de leur travail. Mmh. Et on se rend compte que si le chapeau nous parle, si on sent une force, une humanité dans cette présentation-là, c'est tout de suite un point positif.
Donc tu as écrit ?
Donc j'ai écrit.
Ouais. T'as envoyé le manuscrit.
J'ai envoyé le manuscrit. Et puis je crois deux semaines après.
Et puis la suite, bah, c'est Jérémy qui va nous la raconter quand même.
Ouais, je crois que c'est allé assez vite. Hein,
ouais, c'est allé assez vite. Ouais.
Comme tout manuscrit, hein, quand je le reçois, je l'ouvre, je lis, et puis je filtre à voir pour plus tard, où ça ne me correspond pas, où il faudra prendre le temps.
Donc là, t'as filtré comment, là ?
Eh ben,
au début, hein, la première fois.
La première fois, c'est que j'ai été touché par une étrangeté, quelque chose de bizarre, quelque chose que je ne comprenais pas, et quelque chose qui m'a dit, mais il y a un truc. Le manuscrit que j'ai reçu a provoqué en moi une grande curiosité et j'ai été plongé dans une intrigue. Je savais pas ce que j'avais en fait à lire devant moi. Une présentation déjà de l'auteur, puis un texte, puis un deuxième, puis un troisième. C'est vrai que l'envoi du manuscrit de Mathieu a été assez étrange. Il ne correspondait pas du tout au standard que l'on a l'habitude de recevoir. D'habitude, c'est une lettre de présentation et puis différent du manuscrit. Mais là, il y avait une étrangeté et il m'a donné envie, en fait, à chaque fois, d'aller lire la phrase suivante. Je ne sais pas, tu as répété souvent le mot « magie ». Il y a un truc qui m'a pris, je ne saurais pas comment l'expliquer. Et à ce moment-là, j'essaye de confronter finalement mon point de vue à une autre personne. Parce que dans le métier que je fais, il ne faut pas être tout seul avec son propre délire. Il faut au moins qu'il y ait une autre personne qui nous dise « oui, il y a quelque chose, il y a une étrangeté, vas-y ». Parce que l'engagement après que j'ai moi sur les textes est très important, dans le sens où je mène un gros accompagnement des auteurs qui sont la plupart du temps des primo-romancières ou des primo-romanciers, mmh. avec une fragilité, avec une authenticité, avec parfois en fait des maladresses et tout ça doit encore être travaillé. Donc les textes finalement que je reçois ne sont pas publiables en l'état. Donc il y a besoin en fait de comprendre une attention, de comprendre une sensibilité et de saisir la voix du personnage, enfin du narrateur qui nous raconte l'histoire. Et de l'attraper pour lui donner encore toute sa force, toute sa puissance. Et donc, c'est travailler presque à partir des imperfections d'un texte pour justement rendre le texte toujours de meilleure qualité. Et je fais la comparaison avec le diamant, justement, où la qualité d'un diamant se reconnaît à la qualité de ses imperfections. Et plutôt que de gommer des failles, de gommer en fait ce qui ne va pas dans un texte, c'est de s'en saisir pour pouvoir en fait justement les porter encore plus haut. Pas que ce soit encore plus nul, c'est absolument pas ça, mais qu'il y a dans ces petites incongruités en fait justement toute la subtilité, toute la singularité de l'auteur. Et donc Mathieu, je l'ai contacté pour lui dire que j'étais intéressé, qu'il allait avoir beaucoup de travail à faire sur son texte. Et à partir de là, ça a été une aventure éditoriale.
Tu m'as dit, est-ce que tu es prêt à faire ce travail ?
Ouais, ouais. Et ça a été le moment où on a dit go et qu'on a signé le contrat. Et le moment de la publication, il s'est passé un an. Ça a été de janvier à janvier.
Ça a été dix mois de réécriture, dix mois de travail. Ça a été long, mais ça a été extrêmement...
Long et éprouvant.
Éprouvant, enfin, mais nécessaire, parce que un premier roman, c'est une première naissance aussi. Et je crois que dès le départ, il y avait énormément de choses à apprendre. Et cette expérience que tu avais déjà de l'édition, en travaillant avec énormément d'auteurs et d'autrices, m'a beaucoup servi et je crois qu'on a travaillé ensemble en toute humilité. On s'est pris la tête parfois, on a retravaillé le livre, on l'a vraiment changé, ce livre. Du premier manuscrit que j'ai envoyé, la trame est restée, l'histoire est restée, mais On a ajouté une voix du narrateur, on a créé un autre personnage, on l'a vraiment transformé de A à Z. Et ça, c'est un travail, voilà, en tant qu'auteur, dans la subtilité de l'écriture, que j'aurais jamais pu faire seul.
Mais c'est un travail que tu étais prêt à faire aussi.
Bien sûr.
Il y en a qui ne sont pas prêts à...
Non, j'entends ça, mais moi, je me vois pas faire ça sans une forme d'humilité. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je te cache pas que quand Jérémy et Isabelle, qui était notre correctrice,
oui,
sur Isabelle Hopi...
On a travaillé avec Isabelle Hopi aussi en correction.
Le premier retour que j'ai, c'est... Il faut changer ce jeu. Voilà. Au départ, le livre était écrit à la première personne. Il faut changer, ça marche pas. C'est un choc, quoi, parce que il faut tout retravailler. Et à ce moment-là, oui, d'accord, il y a des primo-romanciers, des romanciers et des primo-romanciers qui n'acceptent pas ce travail-là. Mm-hmm. Pour moi, il faut le faire. Voilà, faut le faire. Il faut passer par ça. C'est un choc, certes, mais c'est le boulot et le principal, le nécessaire, la beauté, c'est l'histoire. Et si la voix ne dessert pas l'histoire, alors à quoi ça sert?
Et la beauté, c'est également celle des livres des éditions du Penseur, quand même, parce que il y a une couverture, il y a le papy, il y a le toucher. C'est pas uniquement un livre, quoi, parce que sinon, je te prends un poche et puis voilà, quoi, c'est tout. Mais là non, c'est vrai.
C'est flatteur, merci. on a travaillé.
C'est pour la première fois qu'on te le dit, donc ça me rassure. mais c'est vrai. Mais c'est la signature ta signature.
C'est ça. C'est une couleur pour chaque livre.
Déjà, voilà.
Et pas d'image. Ce sont des lettres, en fait, qui sont imposées sur la première de couverture.
Donc des extraits du livre,
Un extrait du livre, tout à fait. On commence par un extrait du livre, finalement, et qu'ils sont écrits en filigrane par rapport à la couleur de couverture, avec un vernis sélectif qui s'impose dessus. Et selon, en fait, l'orientation avec la lumière, les mots brillent, les mots apparaissent. Mmh, et que c'était l'idée de faire apparaître les mots à la lumière.
Ouais. Et Mathieu, tu avais remarqué ça chez...
On l'a travaillé ensemble. Ouais. Moi, la couverture, comment dire, moi, tu vois, quand j'ai commencé à écrire, je me suis toujours dit, oh là là, il faut que quand je publierai un livre, si je publie un livre, je veux que la couverture soit belle. Ça a toujours été une espèce, voilà, la petite Madeleine.
Et donc, du coup, elle est belle ou pas?
Oui, elle est belle, évidemment qu'elle est belle. On l'a travaillé ensemble.
C'est le jaune de l'étoile du Burkina Faso.
Et tu remarqueras même dans le livre, le livre commence par une étoile.
Je regarderai.
Et ça fait aussi écho aux étoiles que l'on a brodées d'or.
Les étoiles brodées d'or.
Et il y a des parallèles quand même assez terribles, finalement, avec cette histoire d'étoiles brodées également.
Ouais, ça pourrait être l'étoile des 10 champions de France, de Saint-Etienne, par exemple, que n'aura jamais Lyon, que malheureusement a le Paris Saint-Germain.
On sent la rivalité là.
Voilà. Enfin bref. Le jaune, ça pourrait être aussi le soleil, celui de l'Afrique aussi.
Oui,
c'est vraiment, tu
y mets ce que tu veux. L'important, voilà, et tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que la couverture fait parler et la couverture inspire.
Elle a du sens, en tout cas.
Et elle crée toutes sortes de réflexions, de poésie. Et c'est ça la force, je crois, des éditions du Penseur.
Bon, une des forces également, c'est la mise de tes mots en musique. Et je vous tends pas la perche, mais un petit peu quand même.
Allez,
car il va être
le deuxième.
Il va être temps de faire une deuxième lecture musicale que vous pourrez trouver vendredi, demain, le 17 mars, du côté de Trévoux. Jérémy,
Oui, à la librairie La Folle Aventure, un événement qui est organisé par l'association La Passerelle du Livre et des Arts à 20h.
Voilà.
À Trévoux.
Francesco à la guitare.
Ouais.
Et Mathieu à la voix.
Alors, au plus tôt de chaque soirée, les deux footballeurs rangeaient les tables à l'exception de celle qui leur servait désormais de cache somptueuse sous l'éclairage du lampadaire. Un homme, était resté un de ces soirs. Il avait bravé le soleil tout autant que son autorité jusqu'au bout de la journée. Il semblait avoir pris ses aises à la terrasse, ainsi que l'affection discrète du patron qui, tout le service durant, l'avait abreuvé abondamment. L'homme avait ajouté à l'intensité des vagues de chaleur l'odeur brûlante de toutes les cigarettes que le Burkinabé avait pu compter. Il mégotait. La fumée masquait son visage jusqu'à ses propres intentions, illisibles, invisibles. Et tous les clients se renvoyaient le secret en silence. Tous feignaient d'ignorer qui était cet homme et ce pourquoi il était là. Le Burkinabé leur avait jeté quelques coups d'œil inquiets, comme s'il avait pressenti ce jour-là que quelque chose viendrait bientôt bouleverser la quiétude établie. Je crois que l'enfant aurait mérité de comprendre. Il aurait certainement aimé trouver le villageois qui l'avait vendu. Celui-là, il l'aurait rencontré et l'aurait confronté à sa misère. À celui-là, il aurait demandé pourquoi. De quelle lâcheté était-il donc fait ? Gagner sa vie ? En envoyant des enfants à la bataille, honnêtement, qu'est-ce que cela lui rapportait ? Le coupable aurait sans doute répondu quelques fruits, quelques francs, rien de plus à gagner ni à regretter. Mais c'était par sa faute que la misère gagnait et qu'elle gangrénait bien au-delà de sa propre maison. Puis de son regard vide, le malfaiteur aurait ajouté que depuis que son fils était parti à la guerre, que sa place à la table était vide et le ramenait au vide. C'est aussi la misère qui trône à la porte de sa propre maison, lui qui ne possédait rien d'autre que cela. La misère, elle aussi, patiente. Elle est là, devant. Alors peut-être était-il celui qui, de ses quelques fruits, la prochaine fois qu'elle frapperait, pourra se permettre d'inviter la misère à manger.
Mathieu Vivion, Francesco Beucci, un extrait du livre, du roman Le sorcier blanc, plus d'appel. Pour toi, on dit roman, on lit livre. Quel mot tu attaches ? T'es plus attaché que l'autre ?
Un roman, je crois que c'est une belle chose, ouais. Hein ? Un roman, romanesque. C'est beau cet adjectif.
Ouais.
C'est un roman que j'aime bien. C'est un roman que j'aime bien appeler oral. Je crois qu'on a, comme je te disais tout à l'heure, je crois que ça trouve chez moi, en tout cas, j'ai l'impression que en disant ce texte, en le portant avec ma voix, en exprimant ce que j'ai écrit, c'est une toute autre vision que j'en ai, voilà, que j'ai de ce livre-là. C'est un livre qui prend de la force, c'est un livre qui prend de l'écho, ça résonne, ça tape, ça, surtout avec la musique de Francesco.
Alors Francesco, guitariste, rencontré bien avant l'écriture du livre, c'est ça ? Raconte-nous un petit peu votre rencontre, parce que on parle éditeur, mais la musique aussi.
tu veux raconter qui va raconter cette histoire ?
C'est un peu tous les deux, vas-y.
Okay.
On peut dire que tout a commencé par hasard, en vérité, parce que notre copine sont des comédiens.
Voilà.
Et on travaillait ensemble au spectacle à Paris, et un jour, par hasard, on s'est retrouvés tous les quatre ensemble, elle est sortie là. Oui, j'écris poésie. Ah oui, j'ai joué la guitare.
Ouais. On s'est rencontrés dans un bar. Ouais. On s'est rencontrés dans un bar qui était un haut lieu qui s'appelle Culture Rapide à Paris, dans le 20e arrondissement. Et c'est un lieu qui est un haut lieu du slam et du spoken word. Voilà. Ouais. Et Francesco, donc on se retrouve sur un coin de table avec quelques bières, je crois, déjà.
Ouais, c'est possible.
Quelques bières, déjà.
On peut dire ça.
Et Francesco, il arrive et il arrive d'Italie. Il arrive avec ce rêve, voilà, de jouer, c'est son rêve le plus cher. Et on se rencontre dans ce lieu-là et je lui ai dit, bah, viens jouer. Mmh. Voilà, viens jouer. Ce lieu s'y prête parfaitement. La semaine prochaine, viens avec ta guitare et joue-nous quelque chose. Et c'est, voilà, c'est un lieu dans lequel moi j'avais commencé à jouer un petit peu lors de soirées de scène ouverte. Mmh. Mmh. Et j'ai vu, voilà, j'ai vu les yeux de Francesco qui s'illuminaient parce que Francesco, c'est un rêve. Paris, c'est un rêve. Voilà.
Je suis arrivé à Paris pour étudier le manouche, le gypsy jazz. Et l'idée de jouer, non, pour moi, c'est une grande chose. Imaginez que mon ville d'origine est la plus petite des quartiers de Belleville. Donc, arriver à Paris, voilà, ok, beaucoup de choses à faire. Et rien, donc, la grande occasion de jouer, et je me rappelle encore les terreurs que j'ai prouvées à retourner sur une scène avec tout le monde, surtout que les bars là, il est tout anglophone, et je ne parle pas anglais. Donc, ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté en italien. Parfait. Et rien, et après, nous avons parlé un peu ensemble, et là, c'est l'idée de faire une collaboration avec les poésies de moitié, avec mon guitare, et de chercher de donner une atmosphère, une claire de lecture plus facile à des poésies. Et c'est là qu'a commencé.
Et depuis, toutes les semaines, on joue ensemble, on se voit quoi ? On se voit 4 fois par semaine peut-être ?
Ouais, peut-être.
Pour le café l'après-midi, on répète ensemble et puis voilà, on vit le rêve, voilà. On vit le rêve ensemble et le rêve de Francesco s'est transformé en mon rêve aussi. Et je crois que voilà, quand on a des rêves communs, c'est presque une fraternité, voilà.
Ouais.
Et qui est Ursula et qui est Utopia? Et pourquoi Ursula est supérieure à Utopia alors?
Ursula,
c'est
Utopia,
qui ce collectif?
C'est le collectif qu'on a créé. On a envie... Moi, j'ai besoin de créer des choses avec mes amis. Voilà, j'ai besoin de... j'ai besoin que ça vive, j'ai besoin que ça pulse. On a cette envie, voilà, de créer des choses. Je pense que voilà, c'est toi qui l'avais dit, les enfants des années 20, c'est ça?
Ouais, exactement.
on se retrouve voilà à Paris, dans la plus belle ville du monde et avec les rêves les plus beaux du monde. Et Ursula Utopia, Ursula, c'était voilà, c'est ce donc Ursula Utopia, c'est le collectif qu'on a créé ensemble, mm-hmm, avec Francesco. Et Ursula, c'était la personne qui, c'était la directrice de cette soirée open mic. Mm-hmm. Et on voulait lui rendre un peu hommage parce que c'est la première personne qui a cru en nous.
Mm-hmm. Donc quelle idée de quelle envie de lire ton roman et de le musicaliser, on va dire.
Excuse-moi, pardon.
Pourquoi de ton roman en faire une lecture musicale, voilà, en français?
Parce que la musique, elle est vectrice de rêve aussi.
Mais c'est obligatoire. Enfin, ton roman, tu voyais pas ton roman autrement que...
Non, non, je voyais pas mon roman autrement que pour ça. Et d'ailleurs, dès la conception de ce livre avec Jérémy, comme on le disait tout à l'heure, le travail sur l'oralité, il a été d'emblée... je crois que Jérémy est venu nous voir aussi dans ce bar-là et je ne voudrais pas parler pour toi, mais en tout cas, je pense que tu as vu aussi un intérêt aussi à ça et apporté aussi une différence. Voilà, comment mieux exprimer ces histoires-là?
Alors, plus que l'oralité, c'était surtout pour la scène. On a travaillé le texte avec cette vocation scénique à être performé en live comme vous l'avez fait tout à l'heure, tous les deux. La rencontre à Paris pendant le processus d'écriture était importante pour aussi saisir, entendre ta voix, voir comment tu es aussi encore sur scène, comment tu incarnes également tes mots. Et puis pour moi, c'est aussi un champ d'exploration artistique, le son. Travailler sur les textes, c'est ce que je fais au travers des livres. Travailler sur le son, c'est un projet au sein des éditions du Penseur, au travers de livres audio qu'on a déjà fait. Notre premier, L'homme qui n'aimait plus les chats, va bientôt paraître en livre audio. Et c'est l'opportunité d'aller continuer cette exploration-là, de la voix, du son, et même, pourquoi pas, produire même des contenus purement sonore, avec des histoires sonores, mmh. et mmh. utiliser le matériau qu'est le son, le silence, les bruitages, la musique, comme vecteur en fait, d'histoire, d'une histoire à raconter. Il n'y a pas que le texte en lui-même qui est vecteur, il y a aussi tous les sons qui nous entourent. Ouais. Et donc voilà, je cherche, comme autant l'image, un jour je pense que j'irai également sur l'image, parce que ce sont des potentiels en fait, de narration qui sont très intéressants. Ouais.
La musique qu'on vient d'entendre est très hispanisante. Étonnant pour un Italien.
Oui. Non. Non, la musique, elle a été créée dans une conception un peu différente de mon quotidienneté, de mon normal. Parce que normalement, quand je travaille, quand j'étudie de la guitare, non, tu prends un morceau, tu vas analyser l'harmonie, etc. En vérité, les travaux que nous avons fait ensemble à moitié, c'est de penser à la musique plus comme un soundtrack des livres. Donc, aller à vivre la musique à côté des personnages et de l'ambiance qu'il va donner. Donc, nous avons la musique pour Georges, la musique pour Sauce Blanche, la musique pour l'Espagnol, la musique pour Burkinabé. Et ils sont tous pensés en une conception de contraposition. J'entrerai un peu plus dans le détail.
Tu parles avec les mains, toi, t'es italien. Hein?
Désolé.
On se refait pas.
Et j'ai dit seulement que les deux enfants, ils ont une gamme majeure. Et pour dire que la gamme majeure, c'est la gamme qui te donne l'espérance, l'été, le soleil, la liberté. Et la gamme mineure, c'est il pleut. C'est triste. Et la gamme mineure de la même note, hein, de l'air en particulier, je l'ai utilisé pour tous les deux personnages adultes, pour les blanches, pour les personnages un peu plus fortes, plus mm-hmm. négatifs.
L'espagnol. Mm.
Et l'espagnol, en vérité, a la gamme majeure avec son ami, frère, etc., de Burkinabé. Parce que c'est l'enfance, c'est les rêves qui est un peu nostalgie, parce que tu peux jouer avec ça. Et c'est là, la musique, elle est nassée ensemble à moitié, à analyser, à parler des personnages. Et après, nous avons cherché de faire une musique plus... Comme j'ai dit, qui peut accompagner réellement les mots et accompagner l'auditeur et le spectateur à suivre, à vivre l'histoire.
Ouais. Donc, autant c'est votre première radio tous les deux, trois.
Oui, première ouais. fois aussi pour moi.
Tous les trois, ouais, c'est, je mets trop tard. ce sera presque votre première musicale Attrez-vous demain soir, ou vous avez eu le temps de vous échauffer un petit peu au mois de janvier, je crois.
Ce sera le premier concert.
C'est le premier mm-hmm. concert.
Ce sera le premier concert.
Au mois de janvier, c'était pas un concert.
De quoi tu parles au mois de janvier?
Alors, quand tu avais fait la rencontre au Mont-en-l'Air à Paris.
Oui, au mois de janvier. Bah, mm-hmm. C'était un extrait. Voilà. Ouais.
C'était un extrait. D'accord.
C'était un extrait.
C'était pas le spectacle en entier.
Exactement.
Le spectacle, tu lis tout le livre? Non.
Non, on a réussi à. Alors. On a réussi avec Jérémy au prix d'efforts très courageux à trouver une histoire dans l'histoire. Voilà. À morceler cette histoire et tout en n'enlevant pas son sel, en gardant cette trame, en gardant sa force et sa cohésion. Et voilà, une histoire dans l'histoire.
D'accord. Parce que l'intégrale hein, du livre audio, parce qu'on va aussi produire un livre oui. audio, ça fera à peu près 2h30, 3h hein, de lecture musicale.
Ouais.
Et là, pour le spectacle, il fallait que ça dure entre 50 minutes et 1h15, parce que là, 2h30, on ne peut pas tenir. Mm-hmm. Et donc voilà, donc il a fallu faire des choix, faire des coupes, même des fois des tout petits ajustements pour pouvoir tenir le fil. Et bah voilà, ce sera effectivement la première de ce format-là d'1h15 qui aura lieu demain à la Folle Aventure.
Voilà. On parle de concert, vu que l'heure tourne, on va annoncer tous ensemble, parce que c'est une habitude chez nous, vous êtes là, on va pas... Hein, on va garder cette habitude, c'est d'annoncer les concerts et spectacles de la semaine. Alors il sera question de musique, bien évidemment. Quoique. On peut aussi rire, ça ne fait pas de mal. Ou lire aussi. Chacun notre tour, on va annoncer un concert. Francesco, tu vas annoncer le premier. Tiens, il y a des... Voilà, vas-y. Donc, nous sommes le vendredi 17 mars 2023.
Ok. Vas-y.
Okay,
okay. La cave à musique Macon.
À Macon.
Ok. Mm-hmm. Brahma et Pixvé.
Pixvé, oui.
Ah, pardon, ok.
Voilà. Mathieu, à toi.
Au théâtre Jean Marais à Saint-Fond, nous aurons Claudine Lebeigne.
Qui est artiste de la semaine. Cette semaine, elle le mérite.
Et à la Salle Nationale Bonlieu Annecy, venez écouter Émilie Loiseau.
Au théâtre Le Sémaphore à Érigny, Fred Radix avec La Claque, pièce de théâtre musicale, humoristique et interactive.
Avant, il faisait son siffleur. Au bloc 7 à Saint-Jean-Goux, le National dans Saône-et-Loire, Jane in Golden Place. C'est une des deux, c'est notre amie Céline Rigaud. Voilà, qui fait un duo folk. Voilà.
D'accord.
Voilà. Francesco, à toi.
Les marchés Gare Lyon. Li Ronaldo Wild Classic Music Ensemble.
Voilà.
À la MJC de Montchat à Lyon, Les Chants de Mars avec Leila Huissou et Marcel.
Au Jack Bron, Les Chants de Mars avec Renan Luce.
Au Ninkasi Gerland à Lyon, Les Tambours du Bronx et Chargotte.
À la librairie, c'est tombé sur moi. À la librairie, La Folle Aventure, attrez-vous Mathieu Vivion et Francesco Beucci à 20h. Et c'est sur réservation, j'ai vu.
Oui, vaut mieux.
Vaut mieux. D'accord.
Ok. Ninkas.
Non, passe au suivant. C'est une rediffusion, ça. Hein? J'ai déjà annoncé. J'ai annoncé il y a.
Ah, je l'ai mis deux fois. Ah,
oui. Donc passe au suivant.
Ok, d'accord. J'ai même pas fait
salle de
deux
fête.
Fois. T'arrives.
Ouais. Salle de fête, l'Opidum Champagnol. Les Stranglers.
Très vieux groupe des années 70-80.
C'est clair.
Ouais.
On passe au samedi 18 mars avec l'Arcadium à Annecy, Beyond the Music, The Sound of U2.
T'as aimé U2 aussi? T'es arrivé trop tard?
Difficile U2, difficile. Ouais. Pas ma tasse de thé.
Bon. Allez, on continue.
Au Ninkasi Gerland à Lyon, Cannibal Corpse, Dark Funeral et Ingested.
C'est une soirée punk, ça.
Ah non, métal.
Métal,
c'est pas punk, c'est métal.
Il faut y aller.
Oui.
À la Buissonnière à Courzieux, dans 69, Claudine Lebeigne.
À la salle de la Verchère à Charnay-les-Mâcon, dans Saône-et-Loire, nos amis de Courant d'Air, que l'on salue.
Oui, ouais. Michel.
Ben oui, hein.
Ah oui, ben
on est obligé maintenant. Hein.
Ouais. Ah, maintenant, on les annonce tout le temps maintenant.
Ouais. Pendant 22 ans, on les a snobés, on les aimait pas, puis depuis le mois de septembre, ben on est fans. il a fallu qu'ils viennent fêter avec nous les 40 ans pour qu'on apprécie un très bon groupe.
À juste valeur.
À juste valeur, le groupe Courant d'Air.
Tout à fait.
Voilà. Et jamais trop tard. Hein.
Non.
Même nous, on y croit. Allez, Francesco,
okay. La Cue 472, Villefranche-sur-Saône. Hélène Piris.
Okay.
Piris.
C'est pas grave.
À la Altony Garnier de Lyon, ce fantastique artiste qui est Hubert Félix Thiéphen.
Ouais.
À la MJC, au Totem Rieux-la-Pape, Les Chants de Mars avec Sophia Nolin, Slogan et Maol.
À la Cava Musique à Mâcon, Mooking Cruise et Patrick Savachier.
Il y a un peu d'humour, ça fait pas de mal.
Ouais.
Voilà. Le 19 mars, dimanche 19 mars 2023, à la Comédie Odéon à Lyon, notre ami Christophe Alévèque qui revient avec sa revue de presse. Ça va donner, je pense.
L'Amatole. Je sais pas qu'on s'est dit ça.
L'Amatole.
Vauxrenard.
À Vauxrenard.
Vauxrenard. Claudine Lebeug.
Lebeug.
au Totem Rieux à La Pape, Les Chants de Mars avec Lise Martin et Valentin Vander.
Valentin Vander, si vous ne connaissez pas, c'est un des musiciens.
Je le connais.
Un des quatre des Coquettes en trio. C'est excellent.
C'est excellent. Il a commencé dans des laveries automatiques avec un ami à moi, où il faisait des concerts dans des petites laveries. Voilà, c'était les laveries parisiennes. Et il est apparemment très, très sympathique.
Ouais. Allez, on continue.
On passe au mardi 21 mars, au Troxon de Lyon,
voilà.
Avec Aux Femmes et The Wow Signal.
Au théâtre Piccolo à Chalon-sur-Saône, Mona Cazou.
Encore nos amis. Et au Radio à Caluire, Thomas Fersen.
Ok, on passe à mercredi 22 mars.
Oui.
Transborder.
Oui.
Villeurbanne.
Dub Inc.
Ça, c'est facile.
Dub Inc. Et c'est génial.
C'est du reggae.
À tout bout de champ, à Lyon, Les Chants de Mars, encore avec Salomé Leclerc et Caïman.
Notre ami Caïman, que je vous recommande.
Bourse du travail de Lyon, les goguettes en trio, mais à quatre.
Salle de la pyramide à Marcy-l'Étoile dans le Rhône, les nuits du loup avec Mister Matt en solo.
Au Marché-Gare à Lyon, Super Ego, le cachalot, c'est le projet jeune public de David Delabrosse et moi je le recommande et c'est une recommandation signée Christian. Donc c'est pour vous dire, c'est à 16h30, normal, c'est pour les enfants.
Et après, j'ai dit 23 mars. Hein.
Oui.
Transborder Villeurbanne. Avatar, complet.
Mais c'est complet.
Au Transbo, à Villeurbanne.
C'est complet, tant pis. Au Brise-Glace à Annecy, c'est Canine.
À la Péniche, le Sirius à Lyon, Elliot Jane.
Bah, ici même, dans les studios de Radio B, ce sera Glenn
Arzel.
Arzel.
Trompé, ouais,
oui, c'est pour ça que j'ai inversé. Bizarre.
Arzel.
C'est
Arzel,
pas ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Glenn Arzel. Alors, tu vois, maintenant je dis des bêtises. Voilà. Glenn Arzel et Claire Nivard en concert radiophonique.
Ils seront à votre place la semaine prochaine. Au CCO de Villeurbanne, on dit CCO, la Rayonne de Villeurbanne maintenant, les Champs de Mars avec Martin, notre ami Martin Luminet et Oscar les Vacances.
La Ténérie, Bourg et Bresse.
La Tannerie. La Tannerie à Bourg.
Tannerie, ah, ok, pardon.
La Tannerie à Bourg.
Et, Putain Club et Valgue. Tout drôle, hein?
Ouais, ouais, parce que...
Pardon.
Ouais, c'est ni italien ni espagnol, ça c'est sûr.
Ouais, ouais, c'est difficile.
Alors, Sonic à Lyon, et ça va me faire plaisir parce que c'est de la cold wave post-punk francophone. Ça, c'est très chouette. Ouais. Et ça s'appelle Vipère sucré salé.
Tu connais?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Mais j'irai.
Ouais. Au Sonic à Lyon. Et on terminera
avec la scène nationale de Bonlieu à Annecy, Youngson Na Quartet.
Ouais, c'est très beau à écouter. Allez, avant de se quitter, on va demander de préparer la guitare et puis de vous relever, que Mathieu se relève quelques instants et reprenne le micro prévu à cet effet pour une dernière lecture musicale de son roman Le Sorcier Blanc.
Vous ne trouvez pas ça choquant que celui-là rentre chez lui le soir? Tous les soirs, le ventre vide et les chaussures en lambeaux et que personne ne le remarque? Que personne des gens qui l'aiment ne remarque, ne s'inquiète, ne lui pose la question? C'est comme si l'ingratitude provoquait en un sens la même ingratitude, comme si vous déteniez l'ingratitude tous! À l'intérieur de vous. Je dis les choses, moi, vous voyez, je sors les grands mots pour que vous compreniez bien, même si je sais que vous ne les comprenez pas, c'est inné. Mais vous comprenez bien dans ma bouche, sur mes lèvres, vous lisez sur les lèvres, non, quand je prononce, vous comprenez que quand je dis inné, je vous donne la réponse. La véritable réponse à la question, la réponse est simple. Il était inné que vous soyez mal né, dès le départ. La vraie raison. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de vous poser la question ou d'apporter une réponse. C'est un jeu futile, comme le football, exactement comme le football. Et laissez-moi vous dire que vous êtes encore plus mauvais à ce jeu-là. Que vous ne sachiez pas frapper dans un ballon passe encore, mais que vous soyez aussi bête qu'un ballon, cela me choque vraiment. Que je puisse poser votre tête, juxtaposer votre tête à côté d'un ballon et que je shoote dedans de la même manière sans que cela ne fasse aucun écho, vraiment cela me désole. Vous êtes des idiots, ingrats et sournois. Vous ne vous rendez pas compte, c'est parce que vous êtes si concentrés sur votre petit malheur, votre petite misère et votre petite ambition, insignifiante elle aussi, minable petite ambition du malheur évitable, jamais évité. Vous ne vous rendez pas compte. C'est exactement pour cela que vous ne vous en sortirez jamais et que personne, au fond, ne souhaite que vous vous en sortiez. Sauf moi. Et vous savez qui je suis, moi? Moi? Moi, je connais les grands joueurs. Moi, j'ai vécu les grands matchs. Moi, je suis celui qui jouait avec eux, avec ceux que votre père admirait lorsqu'il était devant sa petite télé ridicule. C'est moi qui étais dans les grands stades lorsque vous pleuriez dans ses bras. C'est moi. Et la balle que je tenais entre mes pieds, qu'il vous montrait pour vous calmer, vous ne vous en souvenez pas.
Vous ne vous souvenez de rien, aucune reconnaissance jamais, mais c'est moi qui vous berçais déjà lorsque vous n'étiez que des petits brailleurs. Moi ! Moi, bon sang ! Alors respectez-moi.
Mathieu Vivion, Francesco Beucci, un extrait du spectacle musical que vous découvrirez vendredi, demain, vendredi 17 mars 2023, à la librairie La Folle Aventure. Eh bien, je pense que malheureusement, il va être l'heure de se quitter.
C'est vrai qu'on a fait tard ce soir. Hein. On a fait tard.
On a fait tard, ouais.
C'était pour notre plus grand plaisir.
Et pour le nôtre aussi.
Et en espérant celui des auditeurs. Voilà. Et des éditeurs.
Et, auditrices.
Et auditrices.
Voilà. Mm-hmm. Mathieu Vivion, Francesco Beucci, je le prononce bien. Hein.
Ouais,
je maîtrise
parfait.
Bien l'italien, sans l'avoir appris. Et Jeremy M.
Jeremy M.
Jeremy.
Exactement. T'es pas italien, toi. Rien du tout. Jeremy M. Merci d'avoir accepté l'invitation de Terminus des Prétentieux et de Radio B.
Merci à vous.
Rappelons que le livre Le Sorcier Blanc est sorti le 12 janvier 2023 aux éditions Le Penseur, fondé par Jérémy, ça tombe bien. Où peut-on se procurer ce livre ?
Dans toutes les librairies.
Voilà.
Voilà, sans exception, toutes.
Voilà. On retrouve les éditions Le Penseur sur Internet quand même.
Oui, ouais, www.lepenseur avec un A. Oui, Le Penseur, c'est avec un A. LEPANSEUR.com.
Voilà. Et le plus important pour nous, vous proposerez une lecture musicale à la librairie La Folle Aventure, 3 grandes rues à Trévoux, le vendredi 17 mars 2023, à partir de 20h. Et c'est sur réservation qui est conseillée.
Plutôt conseillée.
Réservation conseillée. Sans oublier votre présence au Salon du Livre à Villefranche-sur-Saône le samedi 18 mars 2023. Le dimanche, tu seras tout seul, Jérémy.
Oui, voilà, ils m'abandonnent.
Et les autres viennent pas.
Bah non, il faut qu'ils rentrent chez eux quand même.
Non, mais les autres oh là, romanciers et romancières.
Ils viennent tous de très loin et que finalement, c'est un peu compliqué en ce moment de les faire se déplacer.
Ah, c'est vrai. Mmh. Oui, c'est vrai. Tonio, bonsoir.
Bonsoir, Michel.
Allez, la semaine prochaine, ça sentira bon l'ambiance des Moriarty. Mmh. Ah oui, puisqu'il sera question de roots music, de folk song et d'old time music, avec la guitare et la mandoline et les deux voix de Glenn Arzel et notre amie Claire Nivard, qui viendront jouer en direct quelques morceaux de leur composition extraits de leurs albums en commun, Evening Song, Winding Road. Et puis il sera également question du spectacle Les Raisins de la Colère, qu'ils jouent et accompagnent sur scène. Voilà. Sur ce, comme le dit si bien Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur les 90.0
de Radio B.
Messieurs, bonne lecture musicale vendredi à Trévoux.
Merci Michel. Demain.
Merci beaucoup.
Bonne chance pour la suite de vos aventures.
Merci. Et à bientôt.
Et des tiennes.
Et oui. Et à bientôt sur Radio B.
À bientôt sur Radio B.
Salut.